Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode hors série de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Barnéou, la directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste, un groupe engagé depuis 5 siècles au service de l'intérêt général, en proposant des services essentiels pour le développement du lien social. Et je pense que Muriel, tu vas ajouter plein de choses parce que vous êtes notamment en société à mission. Oui. Et vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que nos auditeurs ne connaissent pas l'ampleur de toutes vos actions.
Oui.
Je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Oui, merci. Moi, je suis ravie d'être là et de pouvoir raconter de ce que font les postiers depuis 500 ans. Parce qu'effectivement, c'est 500 ans au service de l'intérêt général. C'est au fond ce qui nous a fondés. C'est ce dont on hérite, à savoir le faire société, le vivre ensemble. Ça a commencé avec des choses comme transporter de l'information à une époque où il n'y a pas de presse, où il n'y a pas d'internet, où il n'y a pas de téléphone, hein, et où s'écrire est un moyen de faire société. Ça passe aussi comme ça autour de la presse écrite à un moment, hein, et on a hérité comme ça de 4 grandes missions de service public. Et dans cette lignée où, au fond, on se vit comme des transformeurs, de ceux qui mettent en capacité de faire en sorte que les progrès technologiques soient au service de tous, les villes, les campagnes, les zones rurales, les centres urbains, les zones riches, les zones pauvres, des gens aisés, des gens moins aisés. En fait, on est un diffuseur de progrès social au service de tous. Et effectivement, dans ce cadre-là, nous avons adopté le statut d'entreprise à mission en juin 2021, qui est un statut porté par la loi Pacte et un statut très pionnier, très nouveau, qui, d'une certaine manière, sacralise ce souci de l'intérêt général et de la convergence des intérêts de toutes les parties prenantes qui fabriquent ou qui rayonnent autour de l'entreprise. Au fond, ça sert à quoi d'être entreprise à mission?
Oui, c'était ça, même ma question, parce que est-ce que le consommateur sait vraiment ce que c'est?
Non.
Mais c'est pas forcément l'intérêt, en fait.
Non. Au fond, qu'il le sache ou pas, l'important, c'est qu'il le vive.
C'est d'incarner, en fait.
L'incarner et qu'il sache qu'il n'est pas en relation avec une entreprise tout à fait comme les autres. Hein? C'est ça, au fond, ce qu'on fait. Et ça vaut pour le salarié. Il n'est pas en relation avec un employeur tout à fait comme les autres. Ça vaut pour l'actionnaire, qui n'est pas actionnaire d'une entreprise tout à fait comme les autres, parce que ce souci de l'intérêt général, du bien commun, hein, ce sont nos 4 grands engagements, je pense qu'on en parlera oui. tout à l'heure, eh bien, on les a inscrits dans une temporalité qui dépasse la temporalité des échéances classiques d'une entreprise. Un plan stratégique, un mandat. Là, on inscrit ça dans ce qui caractérise l'entreprise, c'est-à-dire ses statuts, et ça donne quelque chose qui enjambe ces échéances entre guillemets humaines et qui inscrit dans la durée ce qu'au fond on fait depuis 500 ans, on le projette aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, pour les 500 ans qui viennent, peut-être.
Mais j'espère, on doit d'abord sauver la planète, on a 3 ans, et après on pourra continuer.
Et nous y contribuons, ouais. Alice, tu as raison,
justement,
nous y contribuons.
Donc cet engagement RSE, tu me parlais de 4 piliers.
Oui.
Concrètement, qu'est-ce que
alors,
fait le groupe?
Fort de cette idée de, au fond, nous aidons la société à porter un certain nombre de transitions et à se transformer, nous avons retenu 4 grandes transitions qui nous traversent. La transition numérique, la transition démographique, c'est-à-dire le phénomène du vieillissement, la transition territoriale, celle de la fracture territoriale, celle qui fait qu'on peut avoir parfois le sentiment de perdre cette cohésion de nos territoires, et bien sûr, la fracture et la transition écologique, à savoir celle de la transformation de nos énergies et la finitude de la planète. Et face à ça, nous avons pris 4 engagements qui portent ces transitions. Un, celui de contribuer à l'accélération des transitions écologiques pour tous. 2, celui de permettre et de contribuer aussi à l'avènement d'un numérique éthique, frugal et inclusif. Ça,
là,
c'est
ouais, là,
un peu plus nouveau,
ouais,
n'est-ce pas?
Faudra qu'on fasse un focus là-dessus, parce que je pense que...
Absolument. Et ouais. Plus classiquement, celui d'être un acteur de la cohésion territoriale, c'est ce qui nous a fondé, je te le disais tout à l'heure. Et enfin, celui qui permet la cohésion sociale.
C'est une entreprise inclusive
par nature,
par nature, finalement, celle qui crée le lien social.
Par nature, Mais c'est une histoire qui se renouvelle tout le temps, parce qu'on peut l'être par nature et puis perdre ça, perdre cette idée, perdre ce sens, perdre la manière de l'incarner. On vit de tellement grandes transformations. Hein. Mmh. La Poste aujourd'hui, c'est 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 270 000 personnes présentes dans plus de 40 pays, et la moitié de notre chiffre d'affaires est à l'international. Donc c'est une entreprise qui s'est considérablement transformée.
Et les métiers évoluent justement aussi.
Oui, bien sûr.
Tous les métiers évoluent.
Tous les métiers évoluent. Aujourd'hui, un facteur peut être, au fond, rémunéré ou appelé, sollicité, amener un service sans avoir de courrier à remettre, sans avoir de colis à donner, sans avoir de presse à distribuer, simplement parce qu'il vient rendre un service. Un service comme, par exemple, la visite d'une personne âgée. Un service comme, par exemple, un diag énergétique, un pré-diag énergétique dans un foyer qui est un foyer qui est une passoire thermique. Donc ça, c'est évidemment terriblement transformant. Et effectivement, ça a nécessité que nous soyons toujours bien ancrés dans ce qui nous a fondés, à la fois cette raison d'être, hein, au service du bien commun, au service de tous, tisseur de liens, et d'écrire ces engagements qu'on veut inscrire dans la durée.
Est-ce que tu as des exemples concrets d'actions qui sont mises en place sur un ou deux de ces piliers, justement, pour un peu illustrer quand même ces propos, parce que c'est trois beaux engagements, mais je pense que les auditeurs aimeraient savoir un peu concrètement...
Typiquement, quand je te parle du diag énergétique, un pré-diag énergétique, il faut savoir aujourd'hui que l'indépendance énergétique de la France, elle se joue dans nos factures et notre consommation d'énergie pour nous chauffer. Et nous avons des passoires thermiques qui sont en nombre très important. Ça, on parle de plusieurs centaines de milliers de foyers dont il faudrait chaque année pouvoir assurer la rénovation thermique. Ce sont à la fois des sujets de solvabilité pour ces foyers, qui en général sont des foyers plutôt modestes, et c'est un vrai sujet d'indépendance énergétique. Les moyens sont mis en œuvre, mais on achoppe sur quelque chose de tout simple. Toucher les gens, leur faire savoir que c'est qu'ils sont dans cette situation-là et qu'ils ont droit à des aides. Bien, nos facteurs, aujourd'hui, servent à établir ce lien.
Et comment les gens peuvent le savoir? C'est les facteurs qui se déplacent.
Exactement.
Par eux-mêmes.
En fait, les communes, les collectivités envoient les facteurs faire des pré-diags. On les a formés à un diag énergétique. Le facteur, on lui ouvre la porte.
Oui, c'est vrai. Hein,
et donc... Ces facteurs sont formés pour pouvoir faire un premier diagnostic. Ce diagnostic va ensuite revenir à la commune, hein, à la mairie, et à partir de là, donner lieu à tout un dispositif qui est mis en place pour aider ces foyers à ne plus être des passoires thermiques et en même temps, moi c'est comme ça que je le définis, hein, à être au front de ce qu'est véritablement l'indépendance énergétique et la préservation de la transition écologique de notre pays.
Et puis, transition écologique, mais économique aussi, parce que finalement, c'est un coût aussi, cette énergie gaspillée. Donc
absolument.
Finalement, c'est aussi réaliser des économies d'échelle pour ces foyers qui
absolument.
Ont déjà
absolument.
Des problèmes.
Absolument.
De...
C'est un pas, par exemple, très fort qui est porté. On a dans d'autres univers, toujours sur le volet de la transition énergétique, on est un très gros acteur de la décarbonation des moyens de transport. On a été le premier à lancer un grand plan de décarbonation de nos outils, de notre appareil. Nos outils, on parle de quoi? On parle de nos voitures, on parle de nos vélos, on parle de tout ce qui nous sert à transporter. Ça, c'est par exemple essentiel dans un monde où on consomme de plus en plus à distance, via notamment du e-commerce. Donc, il y a de plus en plus de flux de marchandises en ville. Et être un acteur qui rend ce transport de marchandises inoffensif pour la planète, c'est un sujet vraiment fondamental, très important, dans ce qu'on va appeler la logistique urbaine, hein, l'organisation des villes, qui, si elles ne s'organisent pas avec des moyens de transport de ces marchandises,
puis il y a de l'optimisation, j'imagine, aussi logistique.
Sûr, voilà, exactement. Optimisée et non émissif, les villes vont s'étouffer.
Oui.
En France, aujourd'hui, on a plus de 40 000 morts prématurées à cause de problèmes de qualité de l'air. On est sur entre 400 et 500 000 morts prématurées en Europe pour des problèmes de qualité de l'air. Donc, c'est un vrai sujet aussi de bien commun que d'avoir des livreurs, ce qui est notre métier, facteurs, livreurs, premier et dernier kilomètre, opérant d'une manière raisonnée, organisée, comme tu le dis, et en mode décarboné, c'est-à-dire voiture électrique, vélo cargo, vélo assistance électrique, tout
surtout
ce que l'on
la
peut
voiture
faire.
Électrique, quand on pourra vraiment recycler les batteries, parce que ça reste un sujet, hein, puisqu'on avait
oui.
beaucoup. Mais ça, voilà, faut aller pour vers cette innovation.
Oui.
Et justement, en parlant d'innovation, tu m'as titillé avec ce sujet du digital, parce que c'est quand même, c'est vrai que.
C'est pas là qu'on nous attend.
Non, et c'est ça qui est génial, justement. Comment vous avez fait ?
En fait, ça revient toujours à se dire, au fond, notre raison d'être, notre raison d'exister, notre utilité, elle est dans quoi ? Et pas seulement dans cet héritage, mais dans le monde de demain. Quand on réfléchit à ça, on tombe sur quelque chose qui est absolument incroyable, 13 millions d'électroniques en France. Donc 13 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, soit faute de capacité à se connecter, soit faute de savoir utiliser, ne sont pas incluses dans notre mode de vie d'aujourd'hui.
Qui en plus se digitalise complètement et il y a des choses qui maintenant ne sont plus faisables en dehors du digital.
Alors après crise, Covid encore plus, bien sûr, hein, ça n'a fait qu'accélérer les choses, mais c'est déjà un énorme handicap, c'est comme ne pas savoir lire. C'est aussi important que ça. Et en fait, on se rend compte que ces personnes ont une propension forte à venir dans nos propres réseaux. On va les retrouver en difficulté sur nos automates, par exemple, dans nos bureaux, ou on va les retrouver nous sollicitant sur des choses très simples qu'elles auraient pu faire elles-mêmes à nos guichets. Et on se dit, mais si on leur apprenait à se servir des outils digitaux, en fait, c'est d'une certaine manière apprendre à pêcher. Savoir se servir d'un automate dans un bureau de poste, c'est aussi savoir se servir d'une caisse automatique dans une supérette le dimanche, quand c'est le seul moyen que l'on a de pouvoir faire nos courses. Savoir utiliser une appli pour consulter son compte bancaire, c'est savoir aussi dérouler une démarche administrative en ligne si on a besoin de renouveler quelques papiers que ce soit, tu vois. Et donc, c'est fort de ça qu'on s'est dit, mais nous, ils viennent chez nous, on les voit. Et donc, nous pouvons être un contributeur de cette inclusion numérique. Parce que on tombe toujours sur la même chose. Comment est-ce qu'on identifie ? Comment est-ce qu'on capte ? Comment est-ce qu'on détecte ces personnes ?
C'est vrai que les gens viennent vous parler. C'est vrai que la poste a un côté rassurant. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais,
oui, c'est vrai. Ils viennent parler aux facteurs, ils viennent parler aux chargés de clientèle. C'est cette marque confiance, ce côté toujours bienveillance au service de tous. Hein. Cette absence de discrimination, quelle qu'elle soit, dans laquelle qu'on pratique, hein, qui est aussi un véritable effort. Ce n'est pas quelque chose qui
c'est
se
vraiment,
décrète.
C'est vraiment un groupe qui a une identité forte. Vraiment, là, quand j'en parle, moi, quand je vois la poste, elle est incarnée.
Elle est pétrie de sens.
Ouais, oui, et incarnée, bien incarnée,
oui,
en fait.
Oui. Autour de la confiance,
ouais,
autour de la bienveillance,
ouais,
autour de...
Du lien social.
Du lien social.
Je trouve qu'il y a un vrai lien, avec le facteur. Ou
exactement,
un vrai lien
exactement.
Social,
et en fait, c'est ces personnes que l'on détecte, et on les détecte via un petit questionnaire. Hein.
Parce que je te voyais avec la main, j'ai cru que tu avais un QR code. En fait, on a un QR code.
Avec un petit questionnaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait en disant
«
Tiens, je pense que cette dame ou ce monsieur doivent avoir des problèmes. » On leur demande s'ils sont prêts à répondre à quelques questions. Et à partir du score de ces questions, on va être capable de leur proposer des petites formations, soit sur place, dans nos bureaux, soit s'ils ont besoin de quelque chose d'un peu plus lourd, parce que tu vois, des fois, un login password, ils ne savent pas le faire. Il y a un monsieur qui raconte, on lui a appris à faire un point avec un clavier. L'usage d'un clavier, c'est pas simple du tout.
Mais là, en fait, si t'as pas été éduqué,
mais bien sûr,
avec,
bien
et
sûr.
Si tu en as pas,
bien sûr, bien sûr. Et donc ces personnes, on va leur proposer des formations que l'on a montées en partenariat avec des acteurs dont c'est le métier, hein, avec qui nous sommes en partenariat, gratuites, dans lesquelles ils vont pouvoir, comme ça, se former. C'est un grand mot, se former, mais à tout le moins atteindre une forme d'autonomie pour voir des choses, faire des choses aussi simples, par exemple, que Pronote. Il y a des mamans qui te disent, c'est extraordinaire, parce que maintenant, je sais utiliser Pronote. Or, les carnets de correspondance, aujourd'hui, ils sont sur Pronote.
Moi, je connais. Ah, mais je suis pas maman. Mais même si il y a quelqu'un qui me briefe.
Ça n'est plus des cahiers. Ça n'est plus des carnets. Si tu veux lire les remarques des profs, si tu veux voir si tes enfants ont des devoirs, en fait, le sujet, c'est digitalisé. Donc,
même pour le rôle de la maman, si elle ne sait pas lire, c'est compliqué.
Absolument. Et je te passe Doctolib et ce que représente l'impossibilité de prendre rendez-vous sur un Doctolib, par exemple. Donc, tous ces sujets sont des sujets qui sont de véritables handicaps pour la vie de tous les jours. Et nous, nous intervenons dans ce cadre-là. Alors, après, on a d'autres formules. Hein. On a des outils qui sont spécialisés. Un outil, par exemple, qui s'appelle Ardoise, qui est spécialisé pour des seniors plus qui ont besoin d'avoir ce qu'on appelle des outils customisés hein, et des applications particulières. Mais comme ça, aujourd'hui, il faut savoir qu'en 3 ans, entre 2020 et 2022, nous aurons touché plus d'un million de personnes. Plus d'un million de personnes seront à un moment ou à un autre passées entre nos mains pour apprendre à se servir du digital. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle, enfin c'est pas moi, c'est ce qu'on va appeler le digital inclusif. Et c'est la manière dont nous contribuons à ce digital inclusif parce que nous ne pouvons pas laisser advenir une société qui laisse sur le côté 13 millions de personnes. C'est juste inimaginable et impensable.
Et je crois même aussi que vous êtes assez novateur, finalement, en matière de tech et digital, avec un programme French IoT. Est-ce que tu peux m'en parler?
Oui.
Ça encore, je suis assez épatée de tout ce que vous faites, finalement, en matière de digital.
Effectivement, ce digital inclusif, on le pousse dans un programme d'innovation qui s'appelle French IoT. IoT avec un I comme inclusif, en fait. Hein. L'idée étant une sorte de tech for good, et qui consiste à dire cette tech qu'on apprivoise et qui nous a un peu envahi au départ sans trop qu'on voit jusqu'où ça allait aller et comment ça allait advenir, elle est aussi quelque chose qui peut être mis au service de l'inclusion, au service du mieux. Et c'est ça l'idée de French IoT.
De faciliter aussi
oui,
les...
Oui, exactement. De rendre la chose simple parce que c'est aussi un facilitateur.
Tout à fait.
C'est aussi un outil qui va nous permettre de nous faciliter la vie. Et donc, on a des exemples, des startups comme ça qu'on a primées. Et c'en est une qui est lauréate et qu'on a emmenée sur alors c'est ces acteurs qu'on prime, ces lauréats, parmi les choses qu'on leur donne, hein, on va les nurser, on va faire comme ça des bootcamps pour qu'ils aillent plus loin, on va les mentorer et on va leur donner accès aussi à une notoriété pour les accélérer. Et parmi les éléments de notoriété, il y a des choses comme le CES de Vegas où on les pousse de manière à ce qu'ils soient sous l'ombrelle de la Poste, exposés, bénéficient d'une forme de marque de confiance, ce que tu disais, hein, sur la confiance, le sens, la crédibilité, et qu'ils soient visibles de financeurs potentiels,
en fait,
qu'ils soient
un
visibles
booster.
De clients. Exactement, exactement.
Et comment vous les repérez, ces pépites?
Ben, en fait, on fait passer des concours. Hein. Donc, on a des chasseurs, entre guillemets, qui sont dans les régions, qui sont nos antennes régionales, qui vont les repérer et qui vont monter des jurys.
Et c'est bien parce que me parles de région, donc encore une fois, tu couvres tout le territoire
oui,
et c'est pas que
ça
des
n'est
startups
pas que
de Parisien.
Ouais. Absolument, ça n'est
parce
pas que Parisien.
Parce que Zay, c'est Marseille. Hein.
Absolument, donc, absolument. Ouais. Et donc, on va, comme ça, leur faire passer toute une série de jurys avec différents niveaux. Et à la fin, ils sont retenus dans un jury national. Et ensuite, rentrent dans ce programme de... C'est une forme d'incubation, je dirais, sans que pour autant ils soient physiquement dans nos locaux.
Oui.
Mais c'est autour de ce que l'on va développer. Je te disais, bootcamp, bienveillance, projection, visibilité. On leur apprend aussi à pitcher et à être plus fort. Certains entrent en relation d'affaires avec nous. Hein. On va pour certains, travailler... on a un acteur, par exemple, comme Ipli. Ipli, c'est un acteur de...
C'est pas le paquet... Enfin,
c'est
pas le paquet, j'allais dire le
paquet,
mais c'est
le paquet recyclable, l'emballage recyclable. Voilà. Ben, Ipli est un lauréat de French IoT disant ça serait tellement bien qu'on puisse renvoyer l'emballage et le réinsérer ensuite dans le fonctionnement pour envoyer...
La circularité.
La circularité, exactement.
Voilà.
Ben, Ipli, c'est comme ça. Et puis Ipli, c'est aujourd'hui un acteur avec qui on est en affaire au sens où La Poste lui achète des prestations. Cariole.
Alors, c'est
un truc génial aussi. Hein. Cariole, on est dans le vélo cargo. On est au tout début du vélo cargo. Donc, c'est un truc un peu étrange. Aujourd'hui, tout ça paraît une évidence. Hein. Les voitures électriques, ce n'était pas une évidence. Hein. Tu sais, quand j'ai démarré ça, on me regardait vraiment du coin de l'œil en disant qu'est-ce que c'est que cette rêveuse. Hein.
On n'a toujours pas les bornes de recharge, donc ça reste toujours pas une évidence.
C'est vrai.
Il y a encore du boulot là-dessus.
Mais on est sûr qu'elles adviendront. Oui. Moi, à l'époque, on me disait retourner.
Mais on cherche une solution pour qu'elle soit vraiment le plus propre possible. Donc, c'est vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi.
Oui. Et donc, carriole, en fait, c'est l'électrification, donc une batterie sur le cargo qui est derrière.
Parce que pour aller plus vite.
Non, même surtout pas. Pour avoir moins d'efforts. Parce que dans la carriole, tu mets jusqu'à 300 kilos de marchandises. Parce qu'il faut pouvoir remplacer une voiture. Quand tu distribues de la logistique urbaine des marchandises en ville, il faut que tu puisses avoir un emport important. Hein, donc, en fait, ce n'est pas sur le vélo que tu mets tes colis
sinon
et tes marchandises.
Sinon, tu mets MyCorn sur le vélo.
C'est ça. Mais on n'a pas que ça. Et donc, derrière, il nous faut mettre ça dans le cargo, dans la carriole. Et pour que ça ne soit pas trop lourd, il faut en fait aider le livreur. Et en fait, c'est une électrification, il y a un moteur. Ça, c'est évidemment pour réduire l'effort. Et puis, si tu as des routes qui montent et surtout des routes qui descendent, il faut pouvoir freiner. Il ne faut pas que le poids emporte le vélo. Et donc, carriole, c'est ça. C'est la première mise au point. Et aujourd'hui, carriole, même chose, on est en affaires. Il fonctionne avec des concurrents aussi à nous. Enfin, on l'a vraiment lancé sur le marché. Et on commence à structurer d'ailleurs ce marché du vélo cargo et ce business du vélo cargo qui est un très, très beau levier de décarbonation de nos villes et de transport doux.
J'ai une question un peu philo qui me vient comme ça. Comment tu vois l'entreprise là, dans les prochaines années? Ah ouais, vaste question. Mais en fait, parce que je trouve que c'est quand même, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une vraie transformation de toutes les entreprises. Et là, quand je vois tous les virages que prend la Poste, au sens propre comme figuré, non mais tous les virages hyper intéressants et sur tous ces grands sujets majeurs.
C'est une bonne question.
Tu penses que c'est une entreprise qui continuera d'évoluer avec son temps, qui continuera de s'adapter d'être... Parce que là, finalement, au-delà de s'adapter, j'ai l'impression que vous allez même chercher, tu vois, des pépites. C'est-à-dire que vous essayez d'avoir un temps d'avance presque maintenant.
Oui.
Plutôt que juste s'adapter à la transformation, vous essayez d'anticiper un peu aussi le changement.
Quand même, c'est vrai, tu as raison. Il faut quand même avoir en tête que nos prédécesseurs l'ont fait aussi. Si on est là, c'est aussi parce qu'ils ont été en anticipation. Après, on a toujours l'impression que pas assez tu comprends. Oui. Mais on a eu, par exemple, c'est des choses qu'on oublie, mais on a diffusé le compte chèque en France il y a un peu plus de 100 ans. Et tu as des postiers qui ont décidé que ce serait un outil majeur, c'était une innovation technique, alors financière, mais technique, une innovation majeure pour le progrès économique et qu'il fallait que tous les Français puissent avoir un compte et un compte chèque.
C'est dingue, je savais pas du tout ça.
Et c'est les postiers qui vont faire ça, qui vont faire que cette chose-là va irriguer, encore une fois, les villes, les campagnes, les centres-villes, partout. Voilà, ça part partout.
En fait, ces postiers, c'est vraiment vos ambassadeurs, c'est vraiment eux qui vous permettent d'être le groupe que vous êtes aujourd'hui.
Oui, exactement. Donc, je pense qu'on a des innovateurs... on en a eu à tous les moments. Quand tu passes du cheval à la voiture, quand tu passes de ça à l'aéropostale, par exemple, pour parler des grandes époques, t'es pionnier. Donc, je pense que c'est un univers qui s'est toujours transformé, sinon il ne serait pas survivant. C'est pas possible.
Parce que finalement, vous êtes quand même, quand on dit la Poste, mais c'est quand même le courrier papier. Enfin, de base.
Au départ, c'est ça.
Et c'est dingue, en fait.
Ce que je te disais, au départ, c'est... transformer, porter de l'information à un moment où il n'y a pas d'autre moyen d'accéder à cette information. Et aujourd'hui, ce métier-là est un métier qui devient très minoritaire dans notre activité, dans notre portefeuille. Il est passé en dessous des 20% d'activité. Et on transporte bien autre chose que de l'information. On transporte des
beaucoup
marchandises.
Beaucoup de colis, j'imagine.
Voilà, on transporte des marchandises.
Un peu de carte postale encore ou plus du tout?
Un petit peu, mais c'est vraiment tout petit. Ouais. On est un acteur de la transition financière, la finance durable. C'est aussi un de nos métiers, d'un métier fort. Quand on est aujourd'hui la première banque qui dit qu'elle se retire du financement des énergies fossiles.
Bravo.
À 2030. Bravo. On donne le là et on donne le pas dans lequel vont s'inscrire ensuite un certain nombre de banques. Quand on devient le premier acteur 100% ISR sur ce qu'on appelle l'asset management, de la même manière, on donne le là, tu vois. Donc, je pense qu'on est héritier de ça. Et si on regarde le demain, je pense qu'on aura deux grandes catégories d'entreprises. On aura, enfin, c'est vraiment très intuitif et très humblement, pour répondre à ta question. On aura celles qui auront su trouver ou donner le sens à leur action, parce que c'est ce sens qui fait que tu recrutes et tu fidélises les meilleurs talents, les meilleurs clients, les meilleurs investisseurs, les meilleurs actionnaires, les meilleurs fournisseurs. Tu vois, c'est ça qui drive le monde aujourd'hui. Et ça va se radicaliser encore. C'est-à-dire, nos jeunes, par exemple, vont devenir encore plus exigeants sur l'authenticité entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc, il y a celles qui auront su articuler ça et le prouver, parce qu'on s'expose en le disant, et le prouver. Et puis, je pense, celles pour qui ça ne sera pas le sujet, mais qui deviendront, au fond, les sous-traitants de ceux qui auront su articuler ce sens.
La troisième catégorie va disparaître, en fait.
Et la troisième catégorie disparaîtra. Oui, c'est assez probable.
Et donc, on sauvera la planète.
Pour sauver la planète, on a besoin de changer considérablement nos comportements. Oui.
La sobriété, le GIEC le demandait.
Oui.
Et d'abord de la sobriété avant de l'innovation.
Pour les Français, ça veut dire 2 tonnes par personne, là où on est plutôt aux alentours de 8,
tu sais que j'ai fait mon calcul, je suis à 2,9.
Ah, dis donc, c'est
exceptionnel. Mes amis m'appellent la Amish, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais tu sais que je suis...
Exceptionnel, parce que
c'est... À Paris, en plus.
Ah oui, c'est exceptionnel, parce qu'on est plutôt aux alentours de 8, 10. Justement, tu vois, nos histoires de passoires thermiques de tout à l'heure.
Bah, moi, c'est ça qui pêche beaucoup dans mon...
C'est un gros sujet d'empreinte, voilà. L'achat de vêtements neufs, qui est un gros sujet. La manière dont on va consommer carnet, de s'alimenter, tous ces sujets-là, ces grosses transformations. Moi, j'y crois. Je crois que nous n'avons jamais eu autant d'argent dépensé pour que le consommateur se comporte d'une certaine manière. C'est ce qui fait la fortune des GAFAM aujourd'hui. Au fond, elles racontent comment on vit pour que d'autres s'en servent pour induire nos comportements. Je pense que nous, en tant que consommateurs, nous n'avons jamais été l'objet d'autant de soins, de dépenses, de débauches, de tout. Et dans le même temps, nous n'avons jamais eu aussi peu conscience du pouvoir que nous avons. Je crois vraiment que ce réveil-là du consommateur qui décide, et qui décide en masse, et qui du coup amène à des changements profonds, ce sont des choses qui sont à l'œuvre et qui sont très puissantes. On en pense ce que l'on veut, mais un yuca, et encore une fois, on en pense ce que l'on veut, au sens, oui, comment est-ce que c'est coté, c'est quoi le modèle, etc. Mais néanmoins, aujourd'hui, tu as une marque comme Intermarché qui, parce qu'elle a 900 produits qui comprennent 132 composants qui sont mal notés dans yuca, décide de revoir la composition de ces produits-là. On aurait utilisé ça via de la législation ou de la réglementation, on en serait encore à discuter de la nocivité du premier produit et de sa composition et de son dosage, etc. Tu mets tout à coup quelque chose entre les mains d'un consommateur éclairé et tu éclaires le consommateur. Et ça, c'est un sujet majeur du monde de demain, c'est que nous soyons éclairés de l'impact de nos choix, éclairés par des acteurs, évidemment, dont on puisse dire...
D'où la transparence demandée.
Exactement.
D'où l'emprunt.
Exactement. d'où vient cet éclairage et d'où vient ce message, évidemment. Mais je pense que des consommateurs éclairés changent et sont capables de changer le monde. Donc, moi, je suis très... positive.
C'est une révolution
et pleine d'optimisme.
Et green, en fait.
Et je pense que nos jeunes, notamment, ont compris ça et sont capables d'aller très loin dans leurs exigences de consommateurs et de nous embarquer dans l'histoire. Oui, je crois, vraiment. Et le monde financier bouge beaucoup aussi. Par effet d'aubaine, par opportunisme.
Peu importe,
il bouge. Peu importe. Il bouge.
Peu importe.
Incroyablement. Et c'est, à mon avis, les sujets, les ferments, les levains qui sont à l'œuvre et qui donnent plein de raisons d'être plein d'espoir.
On se donne rendez-vous dans 500 ans alors ?
C'est ça.
Sans rides.
500 ans.
On sera parfait.
Ouais. Même pas une ride.
Même pas une ride. Merci beaucoup, Muriel.
Merci, Alice. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.